Orange Cyberdéfense.
The cyber threat analyses you need to know about. Cyber decryption. It's now.
Ce flash d'information de juillet vous est présenté par le Cyber Intelligence Bureau, une division du laboratoire d'épidémiologie d'Orange Cyberdéfense. Les données reposent sur des discussions collectées et croisées provenant de divers groupes d'activistes sur les canaux Telegram. Voici l'analyse des investigations. Dans un contexte de tension géopolitique, cette synthèse passe en revue les campagnes activistes de juillet 26, leurs cibles et leurs méthodes opérationnelles. Et si on essaie de visualiser ça, imaginons un instant une petite communauté au Canada qui se réveille un matin. Et là, surprise, les pompes à eau de la région sont devenues complètement folles.
Complètement hors de contrôle.
Voilà. Et la pression de l'eau n'est plus gérée par l'ingénieur du coin, mais par quelqu'un situé à 5000 km de là. Et tout ça à cause d'une décision politique prise en Europe. Ça ressemble vraiment à un mauvais film de science-fiction, mais c'est exactement la réalité de ce mois de juillet 2026. L'espace physique et le monde numérique entrent en collision frontale, quoi.
Une collision très violente.
Donc aujourd'hui, on va explorer les données de cette collision. Mais juste avant d'ouvrir le dossier, je pense qu'il faut établir les règles du jeu sur la provenance de ces infos. Tu peux nous expliquer?
Bien sûr. C'est même un prérequis essentiel, en fait. Ce qu'on va décortiquer aujourd'hui, ça provient exclusivement d'investigations en source ouverte. Ce qu'on appelle l'OSINT, donc le renseignement d'origine source ouverte, et le SOCMINT, qui est l'investigation spécifique sur les réseaux sociaux.
Donc on fouille dans ce qui est public.
C'est ça. Il y a absolument aucune extrapolation secrète ici. Ces sources sont d'origine strictement cybernétique, elles sont laissées de manière hyper visible par les acteurs eux-mêmes, sur Telegram principalement.
D'accord, des traces publiques qu'on analyse du coup avec une certaine distance.
Plus que de la distance, avec une neutralité absolue. C'est vraiment le principe fondamental de toute cette recherche. Les données brutes qu'on a sur la table, elles mentionnent des conflits géopolitiques réels, sensibles, souvent tragiques. Mais notre analyse n'adopte aucune prise de position sur ces conflits.
Aucune ?
Zéro. Le but exclusif de notre échange, c'est uniquement de décrypter l'activité cyber, de comprendre ses mécanismes, d'identifier les acteurs, et tout ça avec une impartialité totale.
Ok, le cadre est posé, je suis prête. Et ce qui frappe direct en lisant ce rapport, c'est que la sphère cyber, c'est pas du tout un univers virtuel isolé qui flotte dans le vide.
Non, pas du tout.
Aujourd'hui, ça ressemble à un miroir déformant des Nations Unies. Genre, chaque embargo, chaque paquet d'aide militaire génère instantanément un missile numérique en représailles.
L'analogie est d'une précision chirurgicale. Le cyberespace est littéralement aimanté par les conflits physiques en ce moment. Si on cartographie les données de juillet, la géopolitique dicte entièrement l'architecture des attaques. La guerre entre la Russie et l'Ukraine reste vraiment le moteur principal. C'est ce qui pousse plein de groupes pro-russes à cibler l'Europe sans relâche.
C'est le point chaud principal.
Ouais. Ensuite, le conflit au Moyen-Orient, entre Israël et Gaza, motive d'autres acteurs à cibler spécifiquement Israël ou l'Égypte, par exemple.
Mais je vois dans les notes qu'il n'y a pas que des guerres territoriales classiques, non? Il y a aussi des conflits purement, réglementaires.
Exact. Et c'est là que ça devient fascinant. On a un troisième foyer de tension qui est interne à l'Union européenne, lié à cette fameuse loi très controversée sur le chat de contrôle.
Ah oui, le projet de surveillance des messageries.
Voilà. Pour nous, c'est un débat parlementaire. Mais pour les activistes, c'est perçu comme une déclaration de guerre contre leur liberté. Du coup, ça a déclenché des ultimatums directs de leur part. Une simple législation génère la même violence numérique qu'un conflit armé.
Donc l'action physique ou légale entraîne une réaction cyber. Et sachant que ces alliances dictent les cibles, il y a un truc qui saute aux yeux ce mois-ci. Les tirs croisés se sont concentrés sur un pays en particulier de manière assez disproportionnée. La France.
Ouais, la France subit une campagne absolument massive et les revendications sont hyper explicites. Si on prend un groupe majeur comme No Name 05716...
Un nom à retenir, je suppose.
Ouais, on va beaucoup en parler. Eh bien, ce collectif justifie ses attaques contre de grosses infrastructures françaises en réponse directe au soutien militaire et politique continu de la France envers le régime de Kiev. Ils ont par exemple visé Geodis.
Et ça, c'est pas un choix au hasard. Frapper Geodis, qui est un titan mondial de la logistique, c'est s'attaquer aux chaînes d'approvisionnement. Et la logistique, c'est le nerf de la guerre.
Exactement. Mais là où je bloque un peu, c'est que si on regarde l'ensemble des acteurs, il y a une faille dans cette logique. La France est un allié de l'OTAN parmi d'autres. Alors pourquoi on observe une focalisation simultanée de la part de réseaux asiatiques?
Ah, les groupes indonésiens. Ouais, On voit des collectifs comme Garuda Kernel Error System ou le cartel Cyber Team Indonesia et même Pfizer's X-Man cibler des tout petits sites français genre roviaction.fr avec des mots dièses comme hashtag OP France ou hashtag Attaque France. Et puis, t'as le groupe Lunaris Sec qui frappe atoutfrance.fr et qui déclare que la France est le pays le plus touché. Ma question, c'est est-ce que la France est devenue le symbole ultime à abattre ou c'est juste une cible super vulnérable ?
C'est un peu le carrefour entre la géopolitique et la loi du moindre effort.
Comment ça ?
D'un côté, la posture de la France en fait une cible symbolique, un beau trophée politique. Mais de l'autre, quand un groupe indonésien frappe un obscur site de gestion de l'eau, il ne le fait pas par fine stratégie militaire.
Il le fait parce que c'est facile.
Ouais, parce que la porte numérique était grande ouverte. Ces groupes utilisent des scanners automatisés, ils parcourent le net, ils trouvent une faille sur un serveur français, ils s'engouffrent et paf ! Ils collent un mot dièse géopolitique dessus pour faire les malins.
Genre on donne un sens politique à du vandalisme basique.
C'est exactement ça. L'opportunisme technique met les vêtements de l'actualité politique.
Du coup, ça nous amène à parler de l'identité de ces attaquants. On a cité Nonem, 05017. Qui sont-ils vraiment ? J'imagine que le cliché du hacker solitaire dans sa cave, c'est mort.
Ah oui, ce mythe-là, il faut l'enterrer direct. Ce groupe-là s'impose comme l'un des 5 plus actifs au monde en ce moment. Rien que sur la première semaine de juillet, ils ont fait 43 attaques majeures, avec leur fameux projet d'Edosia.
43 en une semaine ? C'est une échelle industrielle, c'est pas possible pour un petit groupe. Ils ont des employés, ils sous-traitent.
Mais ils opèrent comme des vraies entreprises de services, en fait. Ils créent des alliances opérationnelles. Par exemple, t'as la Darkstorm Team, qui fonctionne littéralement comme un prestataire de piratage à la demande.
Du hacking as a service, quoi.
Ouais, et ils collaborent ouvertement avec Nonem, 05716, et avec la Meta Hiedro Legion. T'as aussi des acteurs de niche, comme Shadow Closy, 404, qui visent quasi exclusivement les infrastructures écologiques en Europe.
C'est fou.
Et pour couronner le coup, on a le grand retour de Nullsec Philippines.
Ah, ça me dit quelque chose.
C'est normal. C'est la renaissance du cartel de vol de données Shiny Hunters qui s'est reformé après que le FBI a saisi leurs anciens domaines.
Donc si je résume, on est face à une gig-économie, l'économie des petits boulots, mais appliquée à la cyberattaque.
C'est ça.
Surtout que dans les échanges Telegram, on voit des grilles tarifaires hallucinantes. $20 pour paralyser un site pendant 3 heures, $600 pour un mois. Ils ont transformé le chaos géopolitique en un modèle économique super rentable.
C'est glaçant, mais c'est très lucratif. Et pour vendre ces services, ils ont des méthodes bien rodées. Les vecteurs d'attaque de juillet se résument en 3 grandes catégories. D'abord, le grand classique DDoS.
Le déni de service distribué.
Mais pour visualiser, comment tu l'expliquerais simplement ?
Imagine une petite boulangerie qui peut accueillir 10 clients.
Ok. Soudain, t'as 10 000 faux clients qui se pressent devant la porte en même temps. Les vrais clients peuvent plus entrer et la vitrine finit par céder sous la pression. C'est brutal, c'est hyper visible.
Et ça bloque tout.
Voilà. Et c'est avec ça qu'ils ont foudroyé les ministères de la justice en Roumanie, des mairies en Espagne, le secteur financier avec la Discount Bank of Israel ou Lazare en France.
Ah ouais, du lourd.
Sans oublier la logistique. Seva Logistics en France, le métro de Bucarest et les trains du S-Bahn d'Hanovre en Allemagne.
C'est ultra visible. Mais bon, au bout d'un moment, le site ou le réseau revient en ligne. C'est pas une destruction physique. Par contre, la deuxième méthode du rapport, la compromission des systèmes IoT et SCADA, là, c'est une autre dimension.
Là, on est dans la zone rouge. Les systèmes SCADA, c'est le contrôle industriel. L'IoT, c'est les objets connectés. On parle d'une prise de contrôle du monde physique. En juillet, ils ont pris la main sur des fours industriels Lasco en Allemagne.
Des fours industriels ?
Ouais. Ils ont infiltré des panneaux solaires en Pologne, piraté l'irrigation de villas en France, pris le contrôle des caméras de sécurité des magasins meubles à stucco en Espagne et, comme tu le disais en intro, ils ont infiltré le système de pompage d'eau de Georgetown au Canada.
Mais attends, il faut qu'on s'arrête là-dessus. C'est une escalade dingue. Quelqu'un, depuis son clavier, peut faire surchauffer un four jusqu'à l'incendie ou couper l'eau d'une ville. Est-ce que leur but, c'est vraiment de détruire, de faire du terrorisme urbain ?
Étonnamment, non. La logique dominante, c'est plutôt de s'en servir comme d'un panneau d'affichage terrifiant.
C'est-à-dire ?
Quand ils piratent le four Lasco, ils le font pas exploser. Ils prennent juste une capture d'écran de l'interface interne, avec les températures et tout, et ils la balancent sur Telegram pour dire « Coucou, on est là ».
Ah, juste pour faire peur.
C'est de la pure guerre psychologique. Ils montrent qu'ils pourraient le faire.
Je vois.
Mais psychologiquement parlant, qu'est-ce qui les anime vraiment ? Au-delà de l'argent et de l'idéologie, on sent une volonté de détruire psychologiquement l'adversaire.
Cela soulève une question importante sur leur profilage, en effet. Leur but ultime, ce n'est pas seulement de casser un serveur, c'est l'humiliation.
L'humiliation publique ?
Oui, prenez l'anniversaire de l'opération Eastwood.
Ah, rappelez-nous ce que c'est.
En 2025, les services de renseignement allemands ont tenté de démanteler No Name 0576. Ça a été un échec.
D'accord.
Eh bien, pour fêter les un an de cet échec, les hackers ont exposé publiquement l'identité d'une espionne allemande, Angélique Djéré.
Waouh ! Ils ont balancé son nom comme ça ?
Son nom, sa photo, son prétendu rôle. Ils utilisent ça pour prouver que les agences de sécurité occidentales sont incompétentes.
Et ça marche aussi sur la rhétorique avec le matériel piraté, j'imagine.
Totalement. Quand ils piratent des machines allemandes, ils se moquent ouvertement sur Telegram de la soi-disant ingénierie allemande.
C'est du trolling de haut niveau, en fait.
Voilà. Et en Ukraine, ils qualifient le matériel industriel de technologie bout de ficelle ou de garage assemblée.
Donc ils piratent les caméras d'un boucher en Espagne ou un chauffage en Allemagne juste pour prouver qu'on n'est pas en sécurité.
C'est pour instiller l'idée que le concept même de sécurité en Occident est une illusion totale. Et la troisième méthode ?
Beaucoup plus vicieuse. C'est le vol via des web shells. En gros, ils trouvent une porte dérobée, ils s'infiltrent en silence, aspirent toutes les bases de données et les revendent.
Et ces vecteurs, ils ne sont pas déployés au hasard en Europe. En lisant les données, j'ai l'impression de voir un tableau Excel de comptabilité géopolitique.
C'est de la sanction immédiate. L'Allemagne annonce un budget militaire record de 11,5 milliards d'euros. Sanction directe. Ils ciblent les transports, les mairies et ils amplifient numériquement les manifs contre l'usine d'armement Rheinmetall.
Et pour l'Espagne ?
L'Espagne donne 50 millions d'euros d'aide. Boum ! Opération hashtag Obdomino. Les banques sont attaquées et ils font fuiter les données de 400 espions supposés.
Et la Roumanie ?
La Roumanie alloue 38 millions par mois à Kiev. Résultat, le Sénat et les infrastructures logistiques sont pilonnés. Pareil pour la Pologne ou la Belgique avec leur système de contrôle nucléaire pendant les élections.
Mais stratégiquement parlant, pirater les horaires de bus en sac sous les caméras d'un vendeur de meubles espagnol, ça va rien changer aux décisions d'un gouvernement. C'est quoi l'intérêt ? Épuiser les citoyens ?
C'est profondément psychologique. Le but, c'est d'éroder la confiance du citoyen envers l'État.
Genre, si l'État peut pas protéger mon jardin, comment il va me protéger d'une vraie menace ?
Exactement. C'est un poison lent. Et c'est pour ça qu'ils soignent autant leur com.
Ah oui, leur communication, c'est hallucinant. On dirait une agence de relations publiques. Ils utilisent Telegram comme centre de commande et comme vitrine. Comment une simple appli de messagerie peut piloter des attaques mondiales ?
C'est hyper ingénieux. Avant, un pirate devait créer un serveur secret pour envoyer ses ordres à ses machines infectées.
Et la police finissait par le trouver.
Voilà. Alors maintenant, ils écrivent des logiciels qui lisent silencieusement un canal Telegram public. Le pirate poste un message anodin, le logiciel le lit et bim, l'attaque se lance. Il se cache à la vue de tous.
Et il se vante. Il publie des preuves avec des liens checkcost.net, des captures de systèmes internes très complexes genre Siemens C-Numérique ou Simatic S7-1200.
Oui. Ils montrent qu'ils sont bien à l'intérieur. Ils cachent même des messages moqueurs dans les fichiers profonds des systèmes. Et tout ça est monétisé en crypto-monnaie.
Ils ont même des rubriques comme le Hack Tuesday et une section presse où ils partagent les rapports de Hackmanac quand on parle d'eux. Ce niveau d'arrogance, ça dit quoi de leur profil psychologique ?
Ça montre un besoin viscéral d'humilier l'adversaire. Ils rigolent ouvertement de la protection européenne. Leur cible préférée pour se moquer, c'est le Zero Trust, cette doctrine de sécurité qui dit de faire confiance à personne.
C'est ironique quand ils trouvent des systèmes sans aucun mot de passe.
Bah oui, et ils habillent ça d'idéologie. Ils utilisent des termes comme russophobe, des attaques punitives ou le mot dièse time of retribution, l'heure du châtiment.
Mais tout le monde n'est pas un soldat idéologique. Les gars de NullSec ou Shiny Hunters, eux, c'est juste de la cupidité assumée, non ? Ils traitent même les autres de LARPs, des amateurs qui font du jeu de rôle.
C'est le paradoxe. T'as des acteurs étatiques motivés par l'idéologie. Et autour, un écosystème de criminels purement opportunistes, qui utilisent les drapeaux géopolitiques comme une excuse.
C'est un masque super pratique. Ça attire l'attention et ça brouille les pistes.
Complètement.
Donc, pour conclure cette analyse, avec ces profils et ces tactiques, quel est l'état réel de la cybersécurité aujourd'hui ?
Le bilan est clair. L'activité cyber, c'est plus juste de l'espionnage furtif en costume-cravate. C'est devenu une arme visible, hyper bruyante, totalement fusionnée avec les guerres conventionnelles.
Les frontières entre l'activisme d'État et la petite criminalité ont disparu.
Totalement. Et surtout, n'importe quelle infrastructure, de géodis au chauffage d'un particulier, est devenue une cible légitime. Et je rappelle qu'on observe tout ça avec une neutralité stricte. C'est juste la réalité technique des données.
Oui, une réalité qui montre que le monde physique et la sphère numérique sont totalement indissociables.
L'un réagit instantanément aux blessures de l'autre.
L'exploration de ces sources s'achève ici. Et pour prolonger la réflexion, si l'infrastructure critique d'une nation n'est finalement pas plus sécurisée que l'irrigation mal configurée d'une maison de province ou la caméra du commerce local, la notion même de frontière nationale a-t-elle encore un sens quand on parle de défense aujourd'hui ? On se quitte là-dessus. Merci pour cette analyse et à très bientôt.
The cyber threat analyses you need to know about. Cyber decryption. We'll be talking about it on this channel very soon.
Orange, cyberdéfense.